France Inter.
Bonjour et bienvenue dans cette seconde édition de Mousse Mousse. Alors, dans les couloirs de France Inter, on me dit « Mais pourquoi ton émission, elle s'appelle Mousse Mousse ?» Et je réponds « Eh bien, parce que c'est un jeu radiophonique dans lequel il va y avoir de la mousse. » Et par mousse, on entend non seulement la connaissance, mais aussi le fait d'étaler cette connaissance en public de façon à briller et pourquoi pas de façon à séduire les gens avec lesquels on a envie de faire l'amour. Mousse Mousse, c'est un jeu, donc, dans lequel quatre candidats organisés en deux binômes doivent répondre à des questions qui n'ont qu'une seule bonne réponse. L'idée étant que si les candidats ont la bonne réponse, ils produisent davantage de mousse que s'ils ont la mauvaise réponse. C'est un peu comme le Trivial Poursuite, mais en beaucoup plus fun, et surtout avec un maître du jeu. Ce maître du jeu, c'est moi. Je suis le maître de la mousse, le maître moussier.
France Inter. Mousse Mousse. David Castello-Lopez.
Alors, je l'ai déjà dit hier, avec la façon dont je vous ai présenté tout ça, on a un peu l'impression que Mousse Mousse, c'est un jeu qui va se faire dans une atmosphère de bienveillance et de respect. Pas du tout. Pas du tout. L'idée de Mousse Mousse, c'est vraiment d'écraser vos adversaires, de les humilier par votre supériorité. Et on aime beaucoup, à France Inter, que cette humiliation soit publique. Dans Mousse Mousse, on respecte les vainqueurs et on méprise les perdants. Aujourd'hui, dans Mousse Mousse, je reçois donc deux équipes de deux candidats qui vont s'affronter. À ma gauche, une première équipe composée de Pablo Mira et de Bérangère Krief. Pablo et Bérangère, votre métier, c'est de produire du rire. Si les gens rient à vos blagues, ils payent. Et quand ils payent, vous êtes rémunérés, ce qui vous permet d'acheter des choses, et notamment de la nourriture. Est-ce que vous vous souvenez de la première blague que vous avez faite dans votre vie?
Des
trucs quand on est enfant, c'est genre... Bérangère.
Alors, moi, je me rappelle, j'avais imité... on avait été avec mes cousins, j'ai genre une dizaine d'années, et on avait été dans un parc où il y avait des oiseaux à Courzieux, c'est le parc avec des rapaces, et il y avait un spectacle, et t'avais un mec qui agitait de la bidoche comme ça, avec des grandes chaussettes blanches, un truc en cuir, et je l'avais imité en rentrant, et je m'étais mis des grandes chaussettes, je m'étais déguisée, et j'étais en haut dans les escaliers, j'avais dit à tout le monde, hé, venez. Et j'avais fait mine d'agiter, c'était beaucoup plus marrant. Le souvenir d'enfant,
Images,
je me rappelle
bien.
Fabriquer une blague, de dire attention
et d'obtenir des rires.
Oui, ils ont rigolé. Oui, ma famille.
Je me souviens pas. Je me souviens de la période des premières vannes. 13 ans.
C'est groupe tard.
Oui, mais des premières vannes
de
répartie, tout ça. Mais après les blagues,
quoi.
À un moment donné, j'ai dû faire le clown. Tu te mets un peu de sauce tomate sur le nez, tu fais le clown, quoi.
Et vous
vous souvenez aussi d'à quel point dire un gros mot, c'était hilarant en soi. Moi, je me souviens de trouver que caca, c'était genre « Oh, c'est génial !» C'est le
prout.
Caca.
À quel âge prout.
C'est quel âge, tout ça
ouais, parce que jusqu'à il y a 3-4 semaines.
L'équipe de droite est très interloquée sur l'équipe de gauche.
Alors, je vous sais, j'aurais pu, Pablo et Bérangère, vous appeler l'équipe du rire, mais j'avais plutôt envie d'utiliser un terme désagréable pour vous qualifier. Vous serez donc l'équipe des guignolos. Les guignolos. À ma droite,
c'est désagréable de venir, de ne pas être payé et de se faire en fait insulter
gentiment,
par
vous savez.
Payé pour le faire en fait.
Le guignol, le maître de
voilà,
jeu guignol.
Voilà, exactement.
Quoi.
Mais vous connaissez toute ma bienveillance, toute la bienveillance derrière tout cela. À ma droite, nous avons l'équipe, l'autre équipe composée de Benjamin Voisin et Julie Gaillet. Benjamin et Julie, votre métier à vous, c'est qu'on vous filme pendant que vous faites semblant d'être quelqu'un d'autre. c'est pas un métier aussi nécessaire que par exemple médecin. mais c'est quand même un métier dans lequel vous excellez, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà utilisé vos talents d'acteur dans la vraie vie, en faisant par exemple semblant d'être triste pour obtenir des avantages financiers? Ou de quelconque autre
avantage. Moi, je sais que je me suis fait ce contrat avec moi-même, de me dire comme je mens dans mon métier, je triche, de ne pas mentir dans la vie. Je me suis dit, si je fais ça, là...
C'est beau.
Mais est-ce que vous êtes en train de mentir?
Non, je ne sais pas, on est vraiment sincère. Alors après, la promo est un milieu entre mon métier et la vraie vie. Et je ne vous dirai pas tout.
Il peut arriver de jouer dans des films qu'on ne trouve pas ouf. Et là, en promo, il faut dire « Ah, c'est génial, c'est vraiment un très très bon film ».
Non, il faut chercher le truc qui fait que pourquoi, par exemple, on avait accepté le scénario à la base. Il y avait peut-être forcément une raison positive, quelque part.
Il y avait un super Catherine.
On peut tout dire. On peut aussi... Au maître,
il y a des décors formidables. Des décors formidables.
C'était très beau.
Alors encore une fois, j'aurais pu être gentil parce que c'est ma nature première, mais finalement non.
Donc, répondu, hein,
oui, c'est vrai, vous n'avez pas répondu. Mais en fait, je vous avoue,
vas-y,
que j'ai très peur.
Fort. Toi, tu t'es fait oublier.
Je commence un petit peu dans ce métier de présentateur de jeu et on me dit beaucoup dans mes oreilles, genre
enchaîne.
Et donc, des fois, enchaîner, ça veut dire couper la chic à Benjamin Voisin. Mais j'ai envie de dire, on s'en fou, on le coupera en montage.
Non, pas du tout. Ils ont raison de l'autre côté du poste, parce que moi, je veux de la mousse.
Oui,
et
très bien.
Et je vais battre Pablo.
Ok,
les guignolos.
Ok, il y a une guignolo, c'est pas...
Les guignolos... J'ai entendu l'intro, okay. Je suis très sérieux.
Les guignolos, c'est pas ton
évidemment
truc.
Évidemment que je mens tout le temps.
Bravo.
Maintenant, faisons-nous Pablo.
On le brisera.
Ça, ça
on le brisera.
Donc oui, je disais que j'avais cherché quelque chose de... J'aurais pu vous appeler les comédiens, vous voyez. Mais j'ai plutôt décidé d'être désagréable, donc je vous ai appelé plutôt les intermittents. Alors, c'est un...
Et vous,
moi, j'aurais tenté les assistés directement.
Les assistés, C'est vrai, j'aurais pu vous appeler les assistés, c'était encore plus méchant. Alors, cette édition de Mousse Mousse, contrairement à celle d'hier, elle va avoir un thème unificateur. Mm-hmm. Et ce thème, c'est l'existence humaine, avec trois manches successives correspondant aux trois étapes de l'existence humaine, à savoir d'abord la naissance, puis la maladie, puis la mort.
Ouais, c'est fait alors, comme émission pour vraiment grand
exactement.
Grand
public.
Et l'amour...
L'amour, non, mais ça,
bon,
c'est contenu dans la maladie.
D'accord.
moi, je vous pose les questions et vous y répondez, mais avant de répondre, vous demandez la parole. Vous demandez la parole avec le petit buzzer qui se trouve devant vous, buzzer dans lequel est enregistré un son. Je vous propose de le tester. D'abord, l'équipe des guignolos, allez-y.
Vas-y.
Voilà,
d'où le rire.
C'est votre petit rire comme ça.
Un rire un peu mesquin.
Moi, j'appelle ça de la reconnaissance, mais voilà. Voilà, bon, chacun son...
Tout à fait. Et on peut passer maintenant à l'équipe de Julien Gaillet, Benjamin Voisin.
Le cinéma.
Voilà, le cinéma. Ah, c'était plus cool. J'avais quelque chose...
Ah, okay, c'est à moi.
Action.
Ouais, voilà,
action,
ça aurait pu être question. J'avais dit vraiment l'intermittence avant, puis après, je me suis dit, ça va être chiant au bout d'un moment. Donc,
c'est quelle voix?
Le cinéma. C'est la mienne.
Le cinéma.
Pas mal.
Il y a une petite grandiloquence. Il y a une petite grandiloquence.
Cette émission, quand même. Hein.
Pas aussi bien qu'on aurait voulu, mais
c'est
en tout cas, on a fait ce qu'on pouvait. Le but final, c'est donc de gagner le plus de points possible. Il va y avoir trois manches. Pablo, Bérangère, Julie, Benjamin, vous êtes prêts pour la première manche?
Oui, prêts. On les brisera.
Ok, c'est parfait.
On va les écraser.
Le thème de cette première manche, c'est donc...
La naissance.
La naissance. Avec une première question. Vous ne le savez peut-être pas, mais partout dans le monde, les bébés naissent sensiblement plus souvent la nuit que le jour. Ça a été montré par plein d'études statistiques. À votre avis, pourquoi est-ce que les bébés naissent plus souvent la nuit que le jour? Je vous pose la question de façon ouverte.
La naissance.
Le cinéma.
Il faut buzzer avant.
Ah oui.
Oui.
Le cinéma.
Pour la lune.
Pour la lune. Non, mauvaise réponse.
Parce que les premières contractions ne peuvent arriver que quand on est éveillé. Et donc, elles commenceraient en début de journée, puis...
Non, c'est une mauvaise réponse également. Je vous propose de vous donner des choix
multiples. Parce que nous sommes dans la position horizontale.
Non plus. Je vais vous donner des choix multiples. Parce que j'avoue que c'est un tout petit peu compliqué.
Très dur.
Première proposition, parce que depuis les temps préhistoriques, l'espèce humaine a appris à éviter les prédateurs en donnant naissance en cachette la nuit.
Le cinéma.
Oui. C'est effectivement la bonne réponse. J'aurais pu vous imposer d'écouter la totalité des propositions.
Non, on savait déjà.
C'est exactement...
Ah, c'était une nouvelle question la bonne réponse.
Les guignolos, ils n'ont pas compris.
Mais c'est pas pour... Est-ce que c'est pour quelque chose... Vous êtes peut-être pour ça que vous êtes des guignolos.
J'ai payé un taxi G7 pour venir jusqu'ici.
Mais tu n'as pas mis le petit billet dans la poche.
Vous avez des revenus conséquents, Pablo.
C'est vrai.
C'est vrai. J'explique. L'accouchement chez les êtres humains, c'est vraiment un des trucs les plus pénibles et douloureux qui soit. Je ne parle pas en connaissance de cause, je parle de réputation, de ce que certaines femmes m'ont dit. Et c'était déjà le cas du temps des personnes préhistoriques. Et en plus, les femmes à l'époque, elles devaient accoucher au milieu de la nature, avec le risque par exemple d'être mangées par des tigres avec les dents super longues, vous savez là. Or, les femmes préhistoriques qui accouchaient étaient beaucoup plus vulnérables le jour, au moment où la tribu était dispersée pour chasser et cueillir des trucs, que la nuit. parce que la nuit, toute la tribu était là pour les protéger et elle pouvait donc aider les femmes à se protéger contre les prédateurs. C'était donc ça la réponse.
Je sais pas, moi j'écoute plus depuis 20 secondes déjà.
C'est trop complexe. Vous pouvez m'aider un petit peu,
s'il
vous
plaît.
C'est technique. Je vois le niveau intellectuel.
J'essaye. Peut-être
que Harvard.
Je pense qu'en fait, je commence toujours là, puis ensuite j'essaye de descendre pour m'adapter un petit peu aux gens que j'ai autour de moi.
Il n'y aura pas une pêche au canard.
Donc, Benjamin Voisin, vous avez moussé vos races. Benjamin Voisin et Julie Gaillet, vous avez moussé vos races. Vous avez un point. Et l'équipe des Guignolos n'en a aucun. Vous êtes né vers quelle heure, vous? Vous savez ou pas?
Midi 15.
Minuit 50.
Moi, midi 45.
Ok.
Mais comment vous savez ça, les mecs?
Moi, c'est 16h43.
Moi,
c'est
ça dans la vie.
C'est à partir du moment où, dans ta vie, tu fais un thème astral.
Oui.
Et là, tu demandes à tes
parents. Tu poses la question à tes parents.
Ouais, c'est le thème astral.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, c'est comme ça que j'ai su que c'était 16h43.
C'est vrai, c'est
le thème astral.
Je fais un thème astral demain, parfait.
Oui, voilà.
Question suivante, deuxième question de la première manche. Quel est l'anniversaire le plus répandu aux États-Unis? Réponse 1, le 16 septembre. Réponse 2, le 25 décembre. Réponse 3, le 7 mai.
Je tente le 7 mai.
16 septembre.
16 septembre, excellente réponse de Julie Gaillet, de l'équipe des intermittents. Alors, au moins, pour les naissances entre 1973 et 1999. Pourquoi j'ai posé cette question? Eh bien, parce qu'il se trouve que je suis né le 16 septembre. J'ai donc un des anniversaires les plus banals du monde. Il y a des dates un petit peu concurrentes au 16 septembre, mais le mois de septembre, en tout cas, est super représenté.
On a une
comment ça s'explique à votre avis?
Tu fais 16 moins 9.
16 moins 9, on a bouté sur quoi?
Bébé de Noël, ça.
De Noël, exactement. À cause des congés de Noël, on boit des verres, on serre les gens qu'on pense à serrer depuis le mois de septembre et on fait des bébés.
On se réchauffe.
Vous savez quelles sont les dates de naissance les plus rares?
Octobre, septembre.
Non, septembre, on vient de dire que c'était les plus courantes.
Pardon.
Vraiment, ça ne suit pas du côté des Guignolos.
Non, février, mars.
Non, 25 décembre, 1er janvier. Et pourquoi? Pas du tout parce que les gens ne font pas l'amour 9 mois avant. C'est parce qu'en fait, il y a plein d'accouchements qui sont déclenchés. Et quand on déclenche un accouchement, on ne le déclenche pas un jour férié parce que, attends, c'est bon, on ne va pas bosser le 25 décembre.
C'est terriblement logique.
Tout ça, c'est terriblement. Vous savez dans quelle logique, dans quelles circonstances vous avez été conçu? Vous avez des informations sur
la tristesse, essentiellement de mon côté.
Non, mais moi, j'avais fait le pont parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de naissances. Moi, je suis née en avril et je trouvais qu'il y avait beaucoup de naissances en avril. Je dis, c'est incroyable. Et en fait, c'est les bébés conçus l'été.
Ah,
c'est
les bébés de la chaleur, les bébés caliente.
Donc,
par contre, vous n'avez pas raconté, genre, je me souviens, on était là.
Moi, je crois que ça a duré 22 heures et c'était abominable pour ma mère. Voilà, on peut.
Non, l'accouchement, la conception.
L'accouchement, hein.
Là, on parlait de la conception.
Et la conception.
La conception, 22 heures. Bravo.
Ouais, papa,
bravo.
Bravo,
c'était une endurance merveilleuse.
Ils en parlent peu, mais moi je sais qu'il me parlait du fait qu'il voulait absolument un enfant qui faisait le poirier juste après avoir fait l'amour. Je trouvais ça très. Ma mère faisait le poirier.
Ah, bah oui, parce que pour que la gravité fasse son travail.
Donc il suffit de mettre ses jambes en l'air sur un lit, en fait.
Voilà.
Mesdames et messieurs, question suivante.
Ah, elles sont dures.
Pour cette question, non, je ne sais pas dire.
Il a lâché Pablo. Il a lâché.
Non, je vais me battre jusqu'au bout parce que je suis scorpion.
Pour cette question, vraiment, il y a eu une écrasante domination quand même de l'équipe des intermittents. Pour cette question, je vais continuer à parler de moi, non pas par égocentrisme, mais par générosité, parce que je sais que je suis un sujet particulièrement intéressant pour les autres. Comme vous le savez, je m'appelle David. Je suis né en 1981. À votre avis, quelle était la popularité du prénom David en France en 1981?
Le cinéma.
Bah, quel est le critère de popularité?
Premier rang, deuxième rang, quatrième rang. Même pas dans le top 10.
Ah, pas en pourcentage?
Pas en pourcentage.
Attends, ont...
Pourcentage.
22e rang.
Non, il y a des choix. Hein. Premier rang, quatrième ou même pas dans le top 10.
Premier.
Mauvaise réponse de Pablo Mira et des
Même pas dans le top 10.
Comment?
Même pas dans le top 10.
Non plus.
On m'en donne un nouveau choix. Tant pis.
44.
Et 4. Et là, c'était une question de rapidité, puisqu'il n'y avait que 3 propositions et que vous n'avez pas buzzé. C'est Julie Gaillet qui a buzzé à votre place. Hey. Donc, gagné.
Oui. Tu vois, c'est parce qu'ils sont sur scène en ce moment. Ils sont sur leur one-man show et ils sont morts.
Ils sont épuisés. Regardez le stand-up, comment ça fusille.
Vous êtes très sur vous. Vous êtes très sur vous.
On est généreux. On a des atomes
qui ont du public qui rentre dans mon centre.
J'essaie de comprendre la fréquence sur laquelle on est. C'est vrai que c'est.
Alors que nous, on a fini de tourner, on est en promo.
Et très bien. Quatrième rang, grosse banalité de ce prénom. Vous savez quel était le top 3?
Jérôme.
Non.
Guillaume,
Nicolas, Julien et Sébastien. Vraiment aucun.
Et
chez les filles, non. Il y a eu beaucoup de Julien dans les
Et chez les filles, Céline, Aurélie et Émilie. Alors autour de la table, on a tous des prénoms relativement banals, peut-être Pablo, et sauf Bérangère. Bérangère, allez, prénom chelou. Il n'y a eu que 63 Bérangères l'année de votre naissance en 1983, contre par exemple 10 000 Émilie. Ça fait beaucoup plus d'Émilie. Pourquoi est-ce qu'on vous a appelé Bérangère?
Ma mère m'a toujours dit que elle savait que je m'appellerais Bérangère. Il y avait une Bérangère dans sa classe qui était super. Oh. Donc, quand elle serait maman, elle appellerait sa fille Bérangère. Ouais. Okay. J'ai qu'un prénom, j'ai pas de deuxième prénom.
Et ça fait de vous la Bérangère la plus célèbre de France?
Peut-être.
Bah ouais.
Alors que des Benjamins,
Castaldier devant, la Vernier devant,
ça fait du boulot à faire.
On parle pas des Julie, hein, parce que j'en avais trois dans ma classe, moi. Mais...
Beaucoup de Julie. Julie et Benjamin, c'est des prénoms, j'en ai beaucoup dans mon répertoire.
En même temps, c'est la meilleure, hein, Bérangère Krief.
Je suis d'accord, c'est la meilleure des Bérangères.
D'accord.
Et c'est la plus connue.
Je vous remercie.
Il faut courir voir son
spectacle. Même si mon prénom, j'ai eu l'impression que mon prénom, des fois, quand je disais Bérangère, on entendait Guenièvre.
Un côté ancien. Mao.
Vraiment, j'aurais dit Guenièvre, c'était la même chose.
Vous êtes sur France Inter, je suis en compagnie de Pablo Mira, Bérangère Krief, Benjamin Voisin et Julie Gayet, et nous jouons à Mousmous. Il y a une tradition qui s'est mise un petit peu en place depuis hier dans Mousmous, c'est de terminer chaque manche par un blind test en rapport avec le thème de la manche. Et pour cette dernière question, je vous propose donc un blind test baptisé le bruit des bébés. Bruit des bébés, je vais vous faire écouter deux bébés de nationalités différentes. Oui. Et il va falloir que vous deviniez de quelle nationalité sont ces bébés. C'est parti pour le premier bébé, on y va.
C'est l'hollandais ça.
Alors
hollandais.
Non.
Danois.
Anglais.
Non.
Je tente le Canada.
Non.
Le cinéma.
Américain.
Beaucoup plus simple.
Le cinéma.
La France.
Suisse.
Français. Très bonne réponse de Benjamin Voisin. C'est un bébé français. C'est un bébé français.
On se rattrapera sur la maladie, Pablo.
Il y a une deuxième. Il y a un deuxième bébé à deviner. Je vous le fais écouter. Vous devinez de quelle nationalité il est.
Italien.
Espagnol.
Non.
Le cinéma.
Non. Non, Benjamin Voisin, non.
Il est chinois.
Pablo Mira, non. Plus simple.
Bah attends,
Auvergnat.
Non, mais non, ça c'est français.
Espagnol.
Julie Gayet.
C'est non. Un jeu.
Non, non.
Anglais. Anglais.
Non, mais vous allez faire toutes les nationalités.
Bah quoi, Italie, Suisse, Allemand.
Voilà. Très bonne réponse.
C'est pas comme s'il n'y avait pas 180 pays dans le monde.
Mais c'est pas un jeu débile. Comment tu reconnais un bébé allemand d'un bébé français?
Non, mais je vous les refais écouter l'un après l'autre. D'abord le français. Et maintenant l'allemand. Alors vous allez me dire, comment c'est impossible à deviner? Eh bien si, les bébés, ils braillent avec des intonations qui sont influencées par la langue de leurs parents. Wow. Ils imitent en particulier la prosodie. La prosodie, vous savez ce que c'est?
C'est la musicalité de la voix?
La musique des phrases, c'est-à-dire quand on fait genre, ah mais t'aurais pu me le dire. C'est la prosodie, c'est la mélodie de la phrase. Les bébés, ils l'entendent dans le ventre et ils reproduisent. Et il y a des prosodies qui sont spécifiques à l'allemand, des prosodies spécifiques en français. Donc on peut reconnaître la nationalité des bébés avant qu'ils parlent. C'est super.
Eh bien alors... Je savais que pour le bruitage, quand on pose un verre, ben un verre ou une ouverture de porte, claquement de porte d'un film américain, d'un film français,
c'est,
d'un film,
c'est
pas les mêmes.
Il y a des portes allemandes, il y a des portes américaines.
Parce qu'ils n'ont
pas les mêmes
bibliothèques de son.
Non, ou historique de
le matériau du meuble, tout ça.
Ouais. Incroyable.
On n'aurait pas des bruits de porte à tout hasard pour vérifier.
Ils vont avoir mal à les sortir.
Dans la banque de son, on peut avoir une petite ressource de porte.
Non, mais comme ça, tu peux savoir si un film est américain.
Ok.
Je crois que c'est l'heure du bain.
Oh, que de mousse, que de mousse!
C'est la fin de cette première manche. On fait le point sur les points, s'il vous plaît, donc sur la quantité de mousse qui est attachée à ces points.
C'est très douloureux.
Est-ce qu'on peut me dire en régie à combien on en est sur les points? C'est 3 à 1 pour l'équipe des intermittents.
Non, on a au moins 5 ou 4.
Non.
Comment...
Il y a eu que 4 questions.
Je vais être honnête.
Il y a eu que 4 questions. Donc vous menez 3-1. Julie Gayet et Benjamin Voisin. Je vous félicite.
Ça sort très bien, les mecs.
Cette fin de première manche, c'est aussi le moment de parler de vous, un petit peu, parce que je suis lucide. Si vous êtes là, c'est pas parce que vous me trouvez sympa ou que vous avez envie de faire un trivial poursuite, c'est quand même surtout parce que vous avez des produits culturels à promouvoir. Et donc, ça va être votre moment, et je commence par le plus jeune autour de la table, Benjamin Voisin. Benjamin, je vous ai découvert il y a quelques jours à la Cinémathèque de Paris, où je suis allé voir un film dans lequel vous jouez le premier rôle, et qui s'appelle « L'esprit Coubertin ».
Ouais.
L'Esprit Coubertin, dans lequel vous jouez un champion de tir sportif au JO. Vous êtes beaucoup moins beau gosse dans le film que ici devant mes yeux. On s'en rend pas compte que vous êtes beau gosse. Vous êtes enlaidi énormément exprès.
Oui, ouais, on est allé chercher ce book, parce que le book,
oui, le book ça te nique une gueule.
Un book sur ton table.
En régie, personne n'a de book. Dans les années 2000.
Exactement. Okay. On l'a envoyé fort. Et on s'est dit, bah, celui-là, déjà, c'est quand même du capital en moins, tout
c'est
de suite. Là.
Complètement. Bah. Il faut quand même, c'est quand même mieux ça que le contraire, d'être mieux en vrai que dans
c'est
les films.
L'inverse, c'est chiant.
Ouais,
et parce qu'il est beau dans le film et tu le vois en vrai.
Et si c'était l'inverse, je ne l'aurais pas dit à l'antenne. qu'est-ce que vous faites comme chose bien en ce moment?
Je joue du 8 janvier, je crois, au 2 mars, un spectacle qui s'appelle Guerre, un monologue sur Louis-Ferdinand Céline, autour d'une adaptation qu'on a écrite, enfin que mon metteur en scène, Benoît Lavigne, a faite, et qui est ouais, franchement un beau travail que j'ai déjà joué sous deux exploitations, et que je reprends là un peu.
J'ai vu à Avignon, et c'est dingue. Il est seul en scène. C'est Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale
Première Guerre mondiale.
Mais ouais. je suis ressortie bouleversée. Il était incroyable dans cette pièce, franchement.
Ouais. Bérangère et Balou, vous en avez pensé quoi, vous?
Je ne l'ai pas vu, mais j'ai adoré.
Quel passage, surtout.
Non, mais, est-ce que ça a un lien avec tous les nouveaux manuscrits qu'on a découverts il y a un an et demi, deux
Exactement.
Ans
ouais. Okay. En fait, dans les manuscrits, il y a eu quatre épopées différentes. Et nous, on a pris la première qui est sortie rapidement, qui s'appelle Guerre.
Avec les gueules cassées.
Et qui était la plus facile, qui était la plus cinématographique aussi. Qui faisait que 150 pages et c'était facile d'en faire un spectacle.
Julie Gaillet, je me tourne vers vous maintenant. On s'est déjà vu furtivement il y a 5 ans dans un bar. Je vous ai dit bonjour et vous m'avez répondu bonjour. Vous vous en souvenez? Ok, vous en souvenez pas. Bon, c'est blessant.
Je suis désolée.
C'est blessant, mais c'est comme ça.
Mais au moins un indice. Quel bar, quel quartier, quelle ville?
C'était à Paris et c'était avec une amie à moi qui s'appelle Louison et qui fait des dessins.
Voilà. Très bien.
Mais voilà, bon, c'est pas très grave.
Ça se souvient toujours pas, hein, même avec le détail.
Ça devait être le Select.
Non, je sais plus. Non, c'est pas le Select. Je suis là normalement pour provoquer votre humiliation et c'est moi qui m'auto-humilie des trucs comme ça. Vous serez à l'affiche à partir du 1er janvier, si je me trompe pas, d'un film qui s'appelle en français Six jours et en anglais The Chase, un film de Juan Carlos Medina. Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, aux côtés de Samy Bouajila, voilà, c'est un vrai thriller haletant à tiroir, donc c'est compliqué de ne pas spoiler très vite le film, parce qu'en fait, vous avez l'impression, bon, donc il y a cette mère que je joue, qui a perdu sa fille, qui avait été kidnappée, mais qui va mourir, et donc il y avait à l'époque une prescription, au bout de 10 ans, si on n'a pas retrouvé, si on n'a pas d'éléments, l'enquête s'arrête, et elle, c'est impossible pour elle de faire son deuil, cette douleur. Et elle va aller chercher, bousculer Samy Bouajila qui fait l'enquête pour lui dire il reste 6 jours. Et ils ont ce décompte, mais sauf que ça ne s'arrête pas là et c'est complètement... c'était la première fois que j'avais l'impression que je faisais enfin un film de John Woo ou vous voyez Seven ou ces films d'action où je cours avec... des rampes de pluie, l'affiche c'est des parapluies, comme ça c'est tout un ballet, c'était entre Dunkerque, Lille et Roubaix, mais c'était incroyable, sublime, la digue du break de Dunkerque avec tout à coup ces Blade Runner d'un côté, la mer de l'autre, enfin c'était un très beau film d'action et surtout je suis hyper hyper heureuse du résultat, donc voilà, 1er janvier, après les fêtes,
voir ce film.
Allez voir, parce que je ne peux pas dire grand-chose de plus. Ouais. Voilà, il faut...
Je crois qu'à la fin, elle meurt, hein, son personnage.
Julie,
je ne peux rien dire.
Accident de trottinette.
Julie Gaillet, Benjamin Voisin, merci beaucoup. On a parlé de vous. Quant à vous, Pablo et Bérangère, on parlera de vous plus tard, car c'est l'heure d'écouter un extrait de la playlist France Inter. Nous confions la lourde responsabilité de la machine à mousse à Zao de Sagazan, en espérant qu'elle en soit digne.
De l'humain, on comprend des choses, controversons au travers, en vers ou bien en prose, regardez-moi de travers, je prendrai la pose, moi je les aime, mes travers, donnez les vôtres, j'en ferai quelque chose. Thank you. chacun s'installe des choses. Traversez donc vos travers, découvrez vos névroses, découvrez-vous et l'envers, et trouvons la cause. C'est en connaissant nos travers que vient la métamorphose. Aux manies, je vous mets en lumière, je me fais face, fini le déni, fini les manières, bla 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 bla, et je le redis, père, mère, sœur, frère, c'est une histoire de famille, une histoire de travers, une histoire de travers. Controverse tes travers, envers et puis en prose, découvre l'endroit et l'envers, analyse la chose, en comprenant tes travers, viendra la métamorphose.
C'était Au travers de Zao de Sagazan sur France Inter.
Mousse, David Castello-Lopez sur France Inter.
J'ai dû leur demander de réenregistrer les jingles parce qu'il m'avait appelé David Castello-Lopez avec un Z.
C'est
Lopez, c'est le S du Portugal et non pas le Z de l'Espagne. C'est à présent l'heure de la manche numéro 2 de Mousse avec un nouveau thème.
La maladie.
Oh là là.
Question numéro 1.
Allez, on y va.
Robert Liston était un chirurgien écossais célèbre dans la première moitié du 19e siècle. Pour quelle raison
Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Non. Pour quelle raison était-il célèbre?
La mononucléose.
Je vais finir, mais déjà ma question et ensuite les...
Non, mais il parasite le jeu.
Mais oui, parce que c'est la vitalité. Arrêtez. Pour quelle raison était-il célèbre? On écoute les propositions. Proposition 1, on les écoute jusqu'à la fin, s'il vous plaît.
Okay,
proposition 1, à cause de sa vitesse. Il pouvait amputer une jambe en moins de 3 minutes. Réponse numéro 2, à cause de sa modernité. Il a réalisé la première transplantation de rein. La personne est décédée immédiatement, mais il a quand même essayé. Réponse numéro 3, son narcissisme. Il signait ses opérations de ses initiales sur les organes de ses patients.
Le dernier, 3.
Mauvaise réponse
deux,
de Julie Gaillet.
La transplantation.
Non plus, mauvaise réponse. Tu n'as pas le mira.
La
une. Ah, bah si.
On peut pas enchaîner deux fois.
Il n'a même pas appuyé non plus.
C'est triste. La bonne réponse, il y en avait trois. Vous avez dit deux mauvaises. Ils ont
je jure que j'ai dit la une.
Élimination. Ils ont dit la une.
Il y a eu un chirurgien qui signait sur les organes.
Tout à fait. Mais ce n'était pas lui. C'était pas lui. C'était sa vitesse. Il faut voir qu'à l'époque, pas d'anesthésie générale. Donc la principale façon de limiter la douleur du patient, c'est de se dépêcher. Et Robert Liston, il faisait effectivement ses amputations en moins de 3 minutes. Et les initiales.
Comme les bons bourreaux qui savaient bien. C'est pour ça qu'on a inventé la guillotine pour aller encore mieux, mais
un peu plus
bon bourreau qui savait bien.
Et en revanche, ça parle beaucoup chez les guignolos, je trouve.
Voler cette victoire. J'ai déjà été volé avec le nouveau Front Populaire qui n'a pas du tout été reconnu à sa juste valeur dans cette élection. Je ne me laisserai pas voler ce point-là.
Vous savez quoi? On va vous donner un demi-point chacun et comme ça, tout le monde est content.
Non, il n'a pas buzzé. Pablo n'avait pas buzzé. Écoutez.
Vous connaissez la syphilis?
Oui.
Une maladie qui s'attrape par le zizi et qui vous détruit le visage, puis le cerveau, puis provoque votre mort. Au XVIe siècle, la syphilis avait un surnom. Quel était ce surnom?
Le cinéma.
Votre pisse?
Non, bah non. Non. Ça, c'est une autre maladie qui s'attrape par le zizi. Elles ne sont pas toutes équivalentes. Benjamin Voisin.
Je propose trois propositions.
Je peux faire mes propositions? Ou pas? Alors, allez-y, Pablo Mira.
J'ai la proposition, le trésor de Benjamin, mais.
Oh, le trésor de Benjamin.
Les illusions perdues.
Réponse 1, la peste du plaisir. Réponse 1, la peste du plaisir. Réponse 2, la fièvre du samedi soir. Réponse 3, le mal français.
La peste du plaisir.
Le mal français.
Ce n'était pas une proposition.
Le mal français.
Le mal français, excellente réponse de Pablo Mira. Oui. Excellente réponse. Vous reprenez, vous ne vous laissez pas écraser. Vous avez été humilié depuis le début de cette émission. C'était triste à voir. Et bien finalement, vous reprenez, vous vous enlevez un petit peu d'humiliation. Et avec la mousse qui permet donc d'enlever l'humiliation.
On va se reprendre.
Alors, vous imaginez bien qu'en France, on n'appelait pas ça le mal français. Hein, on appelait ça le mal français dans les autres pays, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Mais les Français, eux, ils appelaient ça la maladie de Naples ou la maladie d'Espagne. Toujours. Et tous les pays disaient toujours que c'était la maladie du voisin.
C'était jamais sur le
voilà, c'était surtout sur le voisin. Quelqu'un ici a déjà eu la syphilis, non jamais? Et bah bravo.
Bravo. Attends pour Noël.
Moi, je trouverais ça.
Là, comme il n'y a plus d'éducation sexuelle à l'école, les MST remontent, donc il faudrait. Peut-être comme.
Ce serait quand même délicieusement. Parce qu'on en guérit maintenant de la syphilis. Et s'il y a une maladie vintage à avoir, moi, je pense que je choisis la syphilis. Il y a un petit effet dans la conversation, tu vois. Vintage, mais tu vas guérir, tu vois, je pense. C'est mon avis.
Tu veux relancer la syphilis? C'est ça que tu es en train de me dire?
Relançons la syphilis.
En friperie, quoi.
Coqueluche qui est revenue, la coqueluche cet été.
C'est vrai,
ça c'est un vrai sujet, tu vois, c'est un truc fou.
Question suivante. À Londres, au XVIIIe siècle. C'était tout étouffé. C'était très bien.
Tuberculose qui revient.
À Londres, au XVIIIe siècle, les médecins, ils avaient une méthode un petit peu chelou pour essayer de réanimer les victimes de noyades. Question, que faisaient-ils? Réponse 1. Ils récitaient des prières le plus vite possible. Réponse 2. Il soufflait de la fumée de tabac dans le rectum des gens. Réponse 3, il donnait la fessée aux gens.
Fumée de tabac dans le rectum des gens.
Fumée de tabac dans le rectum des gens. Excellente réponse de Pablo Mira. Oh là là, l'humiliation change de camp. L'humiliation change de camp.
Non, pas du tout.
Si, ils sont en train de vous écraser, de vous enlever votre dignité. C'est lamentable. C'était bien sûr des injections de fumée dans le tabac, de fumée de tabac, pardon, dans le rectum des gens. Et oui, parce qu'ils croyaient que le tabac stimulait la respiration et réchauffait les patients, alors qu'en fait, ça ne fait rien de tout ça. Il y a même un moment où c'est devenu un traitement contre plein d'autres trucs, notamment le choléra. Non seulement tu as le choléra, et en plus, on te met de la fumée on souffle une malbec dans les fesses, dans le fiac. Pas une bonne expérience. Je me demande s'ils ne savaient pas un peu que ça ne servait à rien et qu'ils le faisaient juste pour rigoler.
Jean-Pierre,
je sens que tu as le choléra là. Vite, son cœur a lâché, mets-lui des trucs dans les fesses. Vous êtes toujours sur France Inter, je suis en compagnie de Benjamin Voisin.
C'est très étonnant d'ailleurs.
Bérangère Krief, Julie Gaillet, et nous jouons à Mousse-Mousse. Question suivante, et c'est la dernière question de cette manche. Comme d'habitude, comme souvent en tout cas, c'est un blind test que j'ai intitulé donc le bruit de la maladie. Je vais vous faire écouter un enregistrement réalisé au stéthoscope, de quelqu'un qui souffre d'une maladie. Et ma question sera simple, de quelle maladie cette personne souffre-t-elle? On écoute.
Le cinéma.
Pardon?
Le cinéma.
Ok, je vous écoute.
Cancer poumon?
Il est question des poumons, mais ce n'est pas un cancer.
Pneumonie.
Bronchiolite.
Non plus.
Pneumonie,
excellente réponse de Julie Gaillet, l'équipe des intermittents qui remporte un point de plus. L'humiliation était en train de changer de camp, elle se renforce dans le camp initial. C'est triste à voir et d'un autre côté, c'est joyeux pour vous, Benjamin Voisin et Julie Gaillet. Oui, c'est une sorte de râle comme ça. Moi, j'aurais reconnu la pneumonie tout de suite. Attention à la mousse.
Ça existait les soirées mousse?
Les soirées mousse, ouais, ça existait. Je crois que c'est un truc des années 80. J'y ai jamais
participé. Ibiza, c'est mon âge. C'est pour moi, c'est Ibiza, années 90.
Non, c'était au Boy il y a très longtemps. C'était une
soirée mousse au Boy.
Soirée mousse.
On peut-être faire un petit point sur la quantité de mousse accumulée par chacune des équipes. On en est où? On me dit en régie que nous, on a 5 points du côté des intermittents contre 3 points pour les guignolos. On est vraiment sur une domination. Une domination qui n'est pas absolue, mais qui est bien placée.
Il dit qu'on se rattrapera avec la maladie et on n'a pas fini avec la mort.
Tout à fait. Donc vous avez encore une chance. Je ne la souhaite pas. Je ne souhaite pas votre victoire.
La mort
À part la mort.
Grâce à la mort.
Je profite de la fin de cette manche pour me tourner justement vers le binôme Pablo Mira, Bérangère Krief. On va parler de vous, Bérangère. Ça fait plus de 10 ans que tout le monde vous connaît et 10 ans que vous avez du succès un peu dans tous les sens. Et aujourd'hui, vous faites un spectacle qui s'appelle Sexe. De quoi ça parle ?
Alors, c'est tout un truc autour... non, c'est pas c'est de sexe, en
de
fait.
Sexe,
vraiment,
ouais.
on a le thème est...
Oui, oui,
en fait, c'est vraiment le thème principal du spectacle. Mais c'est vrai que ça m'est un peu tombé dessus. J'avais le précédent spectacle s'appelait Amour. Mm-hmm. Si on avait des doutes sur mes problèmes affectifs, désormais on est fixé. Mais en tout cas, je me suis dit, le sujet après que je peux explorer, dans lequel j'ai beaucoup de matière et beaucoup de choses à dire, c'est le sexe, et qui était un petit peu mon petit jardin secret. J'ai lu énormément de bouquins sur la sexualité, comme une soif de connaissances, puisque je ne trouvais pas de sens à tout ça. Voilà, ça a été un petit peu un périple que je raconte dans le spectacle. Et surtout, c'était au-delà de la liberté de ton sur la sexualité, le spectacle n'est pas du tout vulgaire et c'est plus un outil pour en parler plus simplement. Je trouve que c'est un sujet, on est là, on n'en parle pas très fort.
Oui.
Et j'avais envie, à la fin, je pense qu'on oublie totalement qu'on parle de sexe.
Et vous parlez de vos propres expériences et aussi de vos lectures et de la vision que vous avez de ces expériences grâce à vos lectures, enfin, qui ont... C'est très mal posé, cette question. Extrêmement mal posé. Non, je veux dire,
c'était pas une question, c'était une agression. Il y avait un point d'interrogation,
vous avez
mais
dit,
tout ça a été vraiment...
Vous avez lu beaucoup de livres sur la sexualité, oui. Mais en même temps, vous parlez pas que des livres que vous avez lus.
Non, en tout cas...
Elle était bien posée, là,
quand même. Ouais, non, mais ça a nourri les points de vue et les choses que je peux dire dans le spectacle. Mais c'est vrai que je le dis, c'est que... Bon, en écrivant le spectacle, j'ai repris tous mes bouquins et je me suis dit, j'en ai quand même beaucoup et je trouve que c'est un peu comme les livres de développement personnel, c'est pas très bon signe, quoi. Si on a 35 bouquins sur la confiance en soi, on se dit pas que c'est son point fort, donc voilà. Mais j'aime beaucoup ce spectacle, je sais pas comment trop le définir. Je trouve qu'il est empreint d'anecdotes, de discussions, de sujets. Je parle aussi parle beaucoup de sexe récession en ce moment et je trouvais que c'était intéressant de se poser la question, de se dire pourquoi on n'a plus envie de baiser en fait aujourd'hui.
Oui.
Et voilà, ça vient questionner tout ça, mais c'est surtout très joyeux.
Vous êtes en tournée dans toute la France en 2025 avant de finir par deux dates aux Folies Bergères en octobre de l'année prochaine.
Oui, c'est vrai.
Et maintenant, je tourne mon visage vers Pablo Mira.
Il est très beau ce visage.
Il est beaucoup mieux, surtout qu'il était. J'ai connu Pablo il y a longtemps.
Je parlais du vôtre.
Hein. Ah non, oui, mais le mien.
Oh,
non,
il
le
se
mien.
Flatte. Regardez, il se flatte.
Le visage de Pablo a connu une amélioration vertigineuse depuis le milieu des années 2010. Ouais. C'est très très beau à voir. Pablo.
C'est à quelle heure ton spectacle, Bérangère, si on peut y aller là tout de suite après.
C'est à 21h.
Bon, mais
Pablo, vous avez fondé le Gorafi avec Sébastien Liebus. Vous êtes deux fois par semaine, si je ne me trompe pas, sur Quotidien pour 4 minutes douche.
Tout ça est factuellement vrai jusque-là.
Vous venez de lancer un nouveau podcast qui s'appelle Ton Quotidien,
oui.
Dans lequel vous recevez des gens connus pour parler de leur quotidien. C'est un podcast qui est en concurrence avec mon podcast moi sur Combini qui s'appelle Small Talk.
Je crois que le mien est mieux.
Qu'est-ce que vous essayez de prouver, Pablo Mira?
C'était beau, il se complimentait puis il s'agresse.
Bah oui, c'est...
Oh là là,
ouais. Qu'est-ce que j'essaie de prouver? Non mais ceci dit, il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc, c'est que moi je suis passionné de comédie, d'humour et de vannes, de punchline et tout. Et j'aime l'idée de le faire sur plein de supports différents. Le Gorafi, c'était du web.
Génial,
il y a eu Inter pendant 3 saisons et demie, la télé, la scène. Et j'aime bien aussi l'idée. Ce que j'aime bien avec le podcast, c'est que pendant une heure, on peut avoir deux esprits qui se rencontrent. L'interview est un petit peu structurée, mais j'aime l'idée qu'il y ait deux esprits qui se rencontrent et qui créent un moment de détente, un truc un peu divertissant, parce que les gens, ils écoutent ça généralement aussi pour se détendre et qu'on apprenne un petit peu, mais surtout de créer un truc marrant. J'aime bien ça.
Mais alors, quel type d'invité? Parce que nous, on n'a pas été invités.
Non,
je crois qu'il y a eu deux numéros de gens pour ça. Mais en fait, je pense qu'ils essayent de rattraper leur humiliation. Ils sont en train de perdre et donc voilà.
Mais 10 points.
L'important, c'est la mousse, c'est pas le fiel, ok? Voilà.
J'ai pas encore invité de mousse dans ce podcast et peut-être que je ferai une heure d'interview d'une mousse. C'est techniquement un peu compliqué.
Il va y avoir du silence. Vous faites aussi un super spectacle que j'ai vu qui s'appelle Passé Simple et qui continue en tournée en 2025. Spectacle dans lequel vous parlez des années de votre enfance, les années 90, et un spectacle que vous jouez ce soir même aux Folies Bergères.
Oui, rapport à l'urgence, on se dépêche, tout ça, faut jouer. Non mais on joue aux Folies Bergères jusqu'au 31, je suis trop content, c'est une très belle salle. Je crois que c'est peut-être l'une des plus belles salles qu'on ait de cette taille-là dans Paris. L'accueil est dinguissime. Parce que je dis aux gens, c'est vrai, c'est, si vous prenez votre place, vous n'êtes même pas obligé d'aller voir le spectacle. Vous restez dans l'accueil.
Dans le hall.
Le hall qui est exceptionnel.
Et puis financièrement, pour vous, ça ne change rien de toute façon.
Moi, il y a des droits d'auteur qui sont quand même perçus. Voilà, et tout, mais juste, le théâtre est dinguissime. Ouais, et je suis très content de jouer ce spectacle-là à Paris, dans cette salle-là, qui était... moi, je n'ai pas un peu le délire de l'Olympia ou d'autres, la Cigale, le Casino de Paris. Je n'ai pas ce délire-là. Par contre,
Bergère, c'est très bien.
Vraiment le délire des Folies Bergères.
Bérangère, t'as pas été au Folie Bergère, je t'ai vu au Folie Bergère.
Oui. Ouais, en première partie d'Alex Lutz en 2012.
J'avais eu un flash, c'était dément.
Une salle un petit peu porno en plus, hein. Un petit peu porno.
Oui, c'est ça.
Il va très bien.
Ça va bientôt être l'heure de la troisième et dernière manche de Mousse Mousse.
Spectacle.
Tu en as parlé un petit peu quand même.
Si, c'est les années 90.
C'est les années 90.
Mais moi, je suis venu pour.
Et puis,
gagner,
il me hurle dans les oreilles. Ils n'arrêtent pas de me hurler dans les oreilles.
Que ce soit bien clair.
Moi, j'ai vu le spectacle, il est génial. Je voudrais mes garçons. Non, mais il faut emmener tous les abonnés.
Mais voilà.
Peut-être que vous pourriez parler de mon spectacle pendant que nous, on vous regarde dire du bien de ma création.
Julie Gayet valide Benjamin Voisin, elle valide Pablo Mira.
Et Bérangère, je lui propose des rôles tout le temps, mais elle ne l'a jamais lu. Elle est tout le temps sur scène et en tournée.
Et en revanche, moi, on ne se souvient pas de moi. Voilà.
Oh, désolée, c'était pas marquant.
C'était pas marquant, mais
on s'en souvient.
J'espère que la prochaine fois, en tout cas. Ça va bientôt être l'heure de la troisième et dernière manche de Mousse Mousse, qui oppose aujourd'hui l'équipe des Guignolos et celle des Intermittents. Un match pour le titre de meilleur moussier. Mais en attendant, on écoute la playlist de France Inter. C'était Perfect Stranger de FKA Twigs sur France Inter.
Mousse Mousse, David Castello-Lopez sur France Inter.
C'est donc l'heure de la troisième manche de Mousse-Mousse qui correspond aujourd'hui aussi à la toute dernière chose qui se passe dans la vie d'un être humain, à savoir la mort. La mort avec cette première question. Quelle est la méthode la plus écolo pour se débarrasser d'un corps après le décès ? Réponse 1, le mettre dans la terre. Réponse 2, le brûler. Réponse 3, le composter. Réponse 4, le laisser tremper dans du Schweppes pendant un an, ce qui permet de dissoudre.
Le cinéma.
Le composter.
Très bonne réponse de Benjamin Voisin.
Mais moi, je suis en arborescence, je suis là. Mais alors, attends, est-ce qu'il faut que la police ne
pas
doit pas savoir?
Non.
Est-ce qu'on le laisse juste
ça
comme
s'appelle, ça
a
un nom, ça s'appelle le compostage humain. C'est une méthode assez récente qui s'appelle aussi l'humusation. Ça consiste à transformer le corps en terre en lui rajoutant des petits trucs, en le mettant dans...
Donc, plus de cercueil.
Plus de cercueil, exactement. Alors, c'est interdit en France encore, mais c'est permis aux États-Unis. Et peut-être que ça, dans certains États des États-Unis, mais ça, ça arrivera peut-être en France un jour. Donc, si vous plaît.
Ce qui ne va pas, c'est que la première proposition, c'était enterrer un corps.
Mm-hmm. Oui.
Et donc, pourquoi ce ne serait pas écolo d'enterrer un corps ?
Non, je n'ai pas dit que ce n'était pas écolo, c'est que ce n'était pas le truc le plus écolo. Le plus écolo, c'est-à-dire qui émet le moins de carbone.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Oui,
et qui émet le moins de carbone.
Tout ça est
c'est
assez bancal.
Le compostage, ça n'a pas été bancal pour l'équipe de Julie Gaillet et Benjamin Voisin. C'est tout ce que j'ai à dire.
Tu ne coupes pas un arbre, c'est-à-dire que ce n'est pas très écolo.
Exactement.
On n'a pas dit qu'on enterrait dans un cercueil.
Si le cercueil est peint avec une peinture polluante,
ça peut être embêtant. Comment vous avez envie qu'on dispose de votre corps, à vous ?
Face contre terre.
Ouais.
Un planking. Non, mais c'est un vrai truc, c'est que c'est Diogène de Sinope qui était l'une des grandes figures du cynisme antique grec. Il demandait à ce qu'on laisse son cadavre comme ça, face contre terre. Je trouve pour la symbolique du cynisme philosophique et non moral, je trouve ça intéressant.
D'accord, ok, c'est sinistre, c'est encore pire. Quoi,
non, c'est pas sinistre.
Parce que votre,
pas du tout, au contraire, ouais.
Votre visage s'écrase et vous devenez une planche.
Ce sera le centre de tout, quoi.
Merci. On peut lui donner un point de notre équipe pour...
symboliquement, oui, mais visuellement, ça doit être très triste à voir, votre visage. Quelqu'un d'autre veut dire comment il veut être enterré ? Vous avez décidé sur la question. En plus, ce sera enregistré, donc on pourra ressortir
le
ça.
Moins de place possible.
Le moins de place possible. Donc.
Ça peut être une petite urne et puis on ne sait pas. Tu vois, on brûle,
Le boîte à bento même.
Un boboun de cendre. C'est très bien.
Laissons la place aux vivants. Non, mais vraiment.
Question suivante. Question cette fois-ci très simple et très rapide. D'où vient le mot corbillard ? Attends, si quelqu'un le sait directement, vous pouvez y aller.
Le cinéma.
Il me semble que du coup, c'est sur la table d'opération, corps qu'on pose sur le billard et qui décède dessus.
Mais pas du tout. Mais ça aurait pu être ça, ouais. C'était une bonne explication.
Il a dit avec un aplomb.
Un aplomb terrible. Je vais vous donner donc quand même le choix multiple. Réponse 1, ça vient des corbeaux, qui sont des oiseaux qui sont réputés pour prendre soin de leurs morts. Réponse 2, ça vient des corbeilles noires, qu'on utilisait à une époque pour faire la quête à la fin de la messe et financer les funérailles. Et réponse 3, ça vient de corbeilles dans l'Essonne, qui à une époque fournissaient des bateaux.
Corbeaux.
Mauvaise réponse des deux équipes.
Deuxième réponse, s'il vous plaît.
La deuxième.
Non plus.
La troisième
réponse, Corbeil et Sonne.
Oh, bravo.
Ça vient de Corbeil dans les Sonnes. Très bonne réponse de Benjamin, de Béranger Krief, pardon.
C'est fou, ça vous avez juste un peu de chance.
Et non, ça vient de Corbeil.
C'est
une curiosité.
Corbeil, je vous explique pourquoi. Corbeil dans l'Essonne, à une époque, fournissait les bateaux pour évacuer les morts de la Grande Peste. Et en fait, c'était des bateaux. Au départ, ces bateaux, pourquoi ils étaient à Corbeil ? C'était des bateaux à fond plat qui remontaient la Seine pour livrer de la farine à Paris. Et là, il y a eu la peste tout à coup. On a dit, tu sais quoi, tes bateaux, on va te les prendre et on va faire sortir des corps de Paris sur ces bateaux. D'où Corbeillard d'abord, puis Corbillard. Fun fact dans tous vos visages. Ça n'a pas été très glorieux. Très glorieux, vraiment, ça a été par élimination. Vous avez le point, mais franchement, il n'y avait pas beaucoup de mousse dans ce point. Il n'y avait pas beaucoup de mousse. Question suivante. Quels ont été les derniers mots prononcés par Steve Jobs avant de mourir ? Réponse 1. Oh wow, oh wow, oh wow. Réponse 2. Your true inner happiness does not come from the material things in the world. Whether you're flying first class or economy class, if the plane crashes, you crash with it. Le véritable bonheur intérieur ne vient pas des choses matérielles de ce monde. Que vous voyagez en première classe ou en classe économique, si l'avion s'écrase, vous vous écraserez avec lui. Réponse 3, Bill Gates.
Deux.
Mauvaise réponse de Julie Gaillet.
La une.
Bah ouais.
Première réponse, c'est très, tout à fait, très bonne réponse de Pablo Mira.
Oh merde.
Très très bonne réponse, il a dit. Toute sa famille, toute sa famille était réunie autour de lui au moment
de
sa mort. Vraiment pas mal de gens. Et il en était, il avait l'air d'être très content. Mmh. Et il a dit donc visiblement avant de partir, tellement il était content de voir tous ces gens devant lui.
C'est très mal expliqué parce qu'on n'avait pas compris que c'était
Il n'y avait pas l'intention, il n'y avait pas de.
C'était mal joué. Sinon,
mais, wow, je vous emmerde collectivement.
En fait, si tu devais faire partie d'une équipe, ce serait l'équipe des surjoués.
Un peu. Oui, non, du non-jeu. J'ai fait oh wow.
Ah, vous aviez pas l'équipe des neutros.
Ah bah non.
Mais eux, ils avaient compris, si.
Non.
On a gagné le point, c'est tout.
On a le point, mais Roger.
Et la deuxième phrase, c'est évidemment lui qui l'a dite, du coup.
Non, c'est même une phrase qu'on lui attribue, mais qui est un hoax total. Il n'a jamais prononcé cette phrase contre le matérialisme.
Un hoax, c'est un canular, parce que David est américain.
J'ai de la bonne connaissance.
Un canular.
Dernière question de cette manche. On y va. Quel animal tue le plus d'humains chaque année ? 1. Le serpent. 2. Le moustique. 3. L'humain. 4. Le requin.
Le moustique.
Non, déjà c'est venu là. Le moustique.
Non, c'était nous d'abord.
Non, vraiment, le son est venu.
Alors, est-ce qu'on peut départager en qui l'a dit, qui a fait le buzzer?
Je suis désolé.
On va faire un petit rewind pour écouter.
C'est Pablo. C'est Pablo.
Mais oui, le son est sorti.
On me dit.
Je suis désolé.
On dit en régie, c'est Pablo.
C'est gagné.
J'ai été un peu tendu sur. Effectivement. Parce que j'aime la justice et j'aime l'équité.
Moi, je peux même rajouter le moustique tigre.
Ah, ça peut être, oui, c'est le moustique.
Ça, c'est possible.
Un quart de point pour la mousse. Je fais ce que je veux, c'est mon émission.
Quand on donne des précisions, on gagne des quarts de points.
Bah, quand c'est la dictature du maître moussier, je suis le maître de la mousse. Je suis le maître moussier, donc un quart de point. En revanche, un point entier en ce qui vous concerne. Le moustique, environ 1 million de morts par an, contre environ 400 000 pour les êtres humains qui se tuent entre eux, donc. Et environ 100 000 pour les serpents et seulement 10 pour les requins. On arrive à la toute fin de cette émission et donc on va devoir déterminer qui a gagné. Est-ce qu'on peut me faire le compte des points en régie? J'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle pour
ces...
Oh là 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 là. On me dit quelque chose d'incroyable.
C'est-à-dire que toute l'intention qu'il n'avait pas mis sur le
On vient de me donner une information très très étonnante en régie.
Non.
Vous êtes à égalité.
Non, c'est vrai,
vous êtes à 6 points partout. Ils comptent le quart. Vous êtes à 6 points partout. Ils ont dû arrondir.
Ils vous ont retiré 3 points.
Vous êtes à 6 points partout. On ne peut pas faire de questions. Vous ne serez pas départagés. Voilà. Et donc,
on a tous gagné.
C'est très très beau à voir. C'est très très beau à voir. Vous êtes à égalité. Vous avez donc la même quantité de mousse chacun. Personne n'a été humilié.
Et il y a un gagnant, c'est la connaissance.
Exactement, le savoir. Et vraiment, l'avancée de la mousse pour le monde entier. C'est très très beau à voir. Je suis très très content. Toutes les équipes ont gagné. Les deux équipes ont gagné aujourd'hui. Et donc, on va vous remettre un trophée. Il y a deux trophées. Parce que normalement, on en donne à chaque membre de l'équipe. Là, il y en a une chacun. C'est le trophée de la mousse. Vous obtenez de la mousse. Regardez comme il est beau, ce trophée.
Il est magnifique.
C'est la mousse comme ça. Moi, je pensais que c'était les soirées mousse, quoi. De la mousse des bulles, quoi.
Non, c'est la mousse de se faire mousser. Et il ressemble à peu près à ça. Hein, vraiment, la mousse, quand on se fait mousser, ça fait ça. Quoi.
C'est une mousse un peu épaisse, un peu solide.
Voilà. Et regardez, mémoire de forme. Exactement.
Ouais.
Alors, Hervé, dans l'émission précédente, l'a laissé sur la table parce qu'il n'en avait rien à foutre. Ça me vexerait que vous fassiez la même chose.
Non, Julie l'avait absolument.
Mais alors, ça, juste pour savoir, en termes de poubelle, c'est la jaune ou la verte?
Oh, quelle... Vous voyez la cruauté de ces gens-là. Il y avait des lots de consolation et ils ne seront même pas utilisés puisque vous avez tous gagné. C'est super. Bravo à tous. Bérangère.
Oui.
David. Pablo, Julie,
Benjamin.
Non, poulpe, merci beaucoup. Il y avait marqué encore une connerie sur ma feuille. Bérangère, Pablo, Julie, Benjamin, merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce qu'il y a un moment dans cette émission que vous n'oublierez pas ou alors dans longtemps?
Ok, merci beaucoup. L'humiliation continue, l'humiliation se poursuit.
J'ai besoin de décompter, on vient vivre un instant fort. Attends, mais c'est hyper fort ce qu'on vient de
vivre. C'était un silence qui brûlait si fort, ce silence.
Nous avoir réunis, c'est voilà.
Très bien, merci, merci beaucoup à vous. Bérangère, je rappelle que vous jouez votre spectacle Sexe dans toute la France en 2025 et au Folies Bergères au mois d'octobre. Pablo Mira, on peut écouter votre nouveau podcast Ton Quotidien et vous jouez toujours votre spectacle Passé Simple dans toute la France, y compris ce soir au Folies Bergères à Paris. Benjamin Voisin, vous jouez dans la pièce de théâtre Guerre, d'après le roman de Louis-Ferdinand Céline, 40 représentations du 8 janvier au 2 mars au théâtre de l'Œuvre à Paris. Julie Gayet, vous êtes à l'affiche du film The Chase en anglais, 6 jours en français de Juan Carlos Medina avec Samy Bouajila qui sort le 1er janvier prochain, et votre téléfilm Olympe, une femme dans la Révolution qui sera diffusée sur France 2 au mois de mars, c'est ça ?
Autour de la journée des droits des femmes, puisqu'elle a fait la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, voilà, sur la Révolution.
Merci beaucoup à tous. À la technique, on avait Florian Dorimini, à la vidéo Benjamin Dorin et Guillaume Ficheux. Les questions ont été préparées par Luc Yadaden et moi-même. Mathias Volant était à la réalisation. Marius Sériez est notre attaché de production et notre programmatrice musicale, Juliette L'Orphelin.